Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Émission Citoyens d'abord. Donc, nos amis de l'APU sont là, comme d'habitude, le premier samedi de chaque mois. Donc, mais on va déroger au principe qu'on s'est fixé dans notre émission dès le départ, parce qu'on a la chance d'accueillir deux étudiants qui ont travaillé sur un rapport qui est très intéressant sur les discriminations au logement. Donc, je vais tout de suite leur demander de se présenter.
Donc bonjour, moi je m'appelle Alexis Moclin, donc avec ma camarade Pauline, donc on est étudiant en master 2 d'ingénierie de projet en politique urbaine, donc à l'université de Lille, et on est intervenu dans ce cadre de notre projet de spécialité pour faire ce rapport sur les discriminations dont nous allons parler.
Donc voilà, bonjour, merci de nous avoir reçus. Donc moi c'est Pauline Erkelblout et comme Alexis, j'ai fait un master 2 en ingénierie de projet politique urbaine et sociale. Et donc voilà, on est là aussi pour vous présenter notre rapport.
Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Déjà, on peut être précisé un peu. Donc, on s'est focalisé sur les discriminations ethno-raciales dans l'accès au logement. Donc, pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est que c'était la commande de Lamel, qui, dans le cadre de son plan de prévention contre les discriminations, a fait appel à des étudiants en sciences politiques pour avoir une étude sur ces questions. Et pourquoi précisément sur les discriminations ethno-raciales ? Parce que, comme l'a montré un récent rapport du Défenseur des droits, donc le Défenseur des droits est une institution autonome autonome de l'État et qui lutte contre ces types de discriminations. Donc ce récent rapport a montré que les discriminations ethno-raciales, donc l'origine réelle ou supposée des individus, étaient le principal facteur de discrimination dans l'accès au logement.
Qu'est-ce que vous avez retiré de ce rapport ?
Donc peut-être pour dire ce qu'on a retiré de ce rapport, en fait, on va déjà Donc en fait, on a eu ce travail pour quelques mois et en fait, on s'est divisé le travail en plusieurs groupes. Donc on a eu un groupe qui s'est focalisé donc sur l'état dans le parc social, ensuite sur le parc privé. Par la suite aussi, on s'est intéressé au travail de certaines associations qui peuvent se saisir de cette question des discriminations ethno-raciales dans l'accès au logement. Et enfin, on a fait un petit travail de benchmark, c'est-à-dire de relever qu'est-ce que sur le territoire national, on peut relever d'initiatives intéressantes qui permettent de prévenir et de lutter contre ces discriminations. Donc peut-être on fera une à la suite. Donc moi, je vais déjà commencer par les résultats principaux qu'on a pu retirer sur les bailleurs sociaux.
Ou peut-être avant, parce que vous étiez en train d'expliquer un peu la démarche, tout ça et tout, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de savoir comment vous êtes organisé aussi.
Donc alors, en termes d'organisation, donc, comme Alexis vient de spécifier, on était 18 étudiants et étudiantes à travailler sur ce rapport, donc sous la direction de M. Julien Talpin, ici présent, et de M. Fabien Desage, qui sont tous deux enseignants et chercheurs à l'Université de Lille 2, à l'Université de Lille, donc au CERAFS, qui est le laboratoire de sciences politiques de l'université. Et donc voilà, en fait, on s'est décomposé un peu le travail avec des étudiants qui qui se sont focalisées sur le parc social, le parc privé, les associations, le benchmark. À côté de ça, on a eu aussi l'occasion de rencontrer des membres d'associations qui ont mené des actions spécifiques en la matière dans le cadre de nos cours. On a aussi l'occasion d'aller à l'IREV, donc l'IREV, le centre ressources politiques de la ville de Lille. D'ailleurs, nous avons été très bien accueillis puisqu'on a eu accès à une mine d'or d'informations avec beaucoup d'archives, beaucoup de documents. Et puis, bien sûr, donc, on a avant tout des étudiants et des étudiantes en sciences sociales. Et donc, on s'est aussi inspiré de la littérature en la matière.
Quelque chose à rajouter peut-être.
Je rajouterais juste que pour préparer ce rapport, donc on a progressivement eu accès à différents articles de sciences sociales, mais également à différentes associations qui proviennent d'associations. Je pense qu'on peut citer notamment le guide de l'APU Moulins qu'on a consulté, qui justement sur le territoire du quartier de Moulins à Lille permettait déjà d'avoir un premier constat de l'état des lieux de ces discriminations. Et après, on a pris en quelque sorte le relais pour essayer de voir plus généralement ce qui se passe sur le territoire métropolitain.
De rajouter un élément, comme le soulignait Pauline à l'instant, il y a un certain nombre d'enquêtes désormais, que ce soit celle du Défenseur des droits ou d'autres recherches qui ont pu être menées ces dernières années, qui démontrent de façon incontestable et scientifique l'existence de discriminations, y compris de discriminations ethno-raciales, dans l'accès au logement. Et donc l'enjeu de cette enquête, c'était de voir comment sur le territoire de la MEL, sur le territoire de la métropole de Lille, les acteurs du logement perçoivent cette question-là et s'en saisissent. Est-ce que une fois qu'on a fait ce constat au niveau national, est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que véritablement les acteurs du logement ont connaissance de ces études? Comment ils définissent les discriminations? Et est-ce que véritablement ils mettent en place des dispositifs, des actions pour lutter contre? Alors on va voir dans un instant quand on va aborder les résultats que ce n'est pas si simple que cela. Et donc l'essentiel du travail des étudiants a été de conduire des entretiens en fait avec un panel assez diversifié d'acteurs du logement social, également des agences immobilières privées, etc. Tout type d'acteurs qui interviennent dans le champ du logement sur la métropole.
Non, peut-être pour ajouter un mot. Oui, donc moi c'est Antonio de la PUFIV. Pour aujourd'hui, Simon n'a pas pu venir, qui est là d'habitude le représentant de la PUFIV. Donc c'est moi qui suis là. Et effectivement, nous donc on avait lu en fait avec attention le rapport qui avait été fait par la PU de Moulins justement sur ces questions-là. Et c'est vrai que on se pose beaucoup de questions et on a un peu du mal à saisir en fait. Et beaucoup de gens qui viennent nous voir nous disent là nous on ressent ce blocage dans l'attribution du logement ou le fait que le rapport du service d'hygiène n'aille pas assez loin dans les constatations qu'il fait sur un logement insalubre. Tout ça on le ressent et on se dit qu'il y a quelque chose qui est propre à nous, à notre appartenance. Mais nous après derrière on a effectivement des outils qui sont très très difficiles à mettre en place pour essayer de mettre en avant en fait ce ressenti. Donc on a un ressenti qui est là, qui est ambiant, qui est réel, mais les associations, elles ont effectivement, je pense, pas assez de formation sur ces questions-là, pas assez de connaissances pour pouvoir s'en saisir avec des vrais outils et mettre en place quelque chose contre ça. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de très important, cette enquête.
Oui, donc c'est par rapport à l'utilité justement de vos travaux. Pour aller un peu plus loin dans ce que vous avez donc perçu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Donc sur les principaux résultats d'enquête, déjà on va commencer par ce qu'on a pu analyser sur le parc social. Donc déjà la première chose qu'on a relevée qui nous a plus ou moins frappé, c'est que le fait que le terme de discrimination soit encore aujourd'hui un terme vraiment difficile qui suscite beaucoup de gêne, beaucoup de réticence, beaucoup de crainte. Par exemple, lorsque l'on a mené des entretiens, on a mené des entretiens avec quand même des bailleurs qui sont relativement importants sur la métropole. Et même dans les entretiens, parfois il a fallu attendre une demi-heure, voire 45 minutes pour commencer à aborder la question de la discrimination parce que on sait, quand on menait les entretiens, que ce sujet pouvait poser problème et qu'on risquait peut-être que l'interaction et l'entretien s'interrompent par une gêne ou par tout simplement une crainte que les acteurs des bailleurs sociaux disent quelque chose qui peuvent leur être reproché. Donc ce terme-là pose problème encore aujourd'hui. Et certains des bailleurs sociaux qu'on a rencontrés d'ailleurs étaient assez surpris qu'on aborde cette question parce qu'ils se considéraient que en tant qu'entreprise d'intérêt général, c'est comme ça que certains se qualifiaient, comment on pourrait en quelque sorte produire des discriminations si on est une entreprise d'intérêt général. Donc c'est quelque chose qui est ressorti et auquel on n'avait pas forcément anticipé. Donc on a quand même été assez surpris par ce questionnement. Ensuite, on a aussi constaté que globalement, chez les bailleurs sociaux, il y a quand même un certain flou entre certaines notions qui saturent le débat public, notamment la question de la mixité sociale ou encore le peuplement, l'équilibre de territoire, etc. Parce que ces notions sont de plus en plus présentes. Pour autant, quand on demandait aux bailleurs sociaux de définir qu'est-ce qu'ils entendent par la mixité sociale, qu'est-ce qu'ils entendent par le peuplement, etc. Souvent, on se retrouvait avec des réponses qui étaient quand même assez différentes, voire des non-réponses. Donc, c'est quelque chose quand même qui pose problème parce que quotidiennement, ces bailleurs sociaux manipulent ces notions qui sont relativement complexes et qui, concrètement, n'impliquent pas forcément les mêmes choses. La mixité sociale et le peuplement ne veulent pas dire la même chose.
Si vous me permettez de rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est une question qui est importante, comme le disait Alexis à l'instant. Il y a à la fois le fait que le déni français des discriminations ethno-raciales demeure quand même une réalité encore aujourd'hui chez les acteurs de terrain, alors qu'au départ de l'enquête, notamment notre interlocutrice à la MEL pensait que, au fond, c'était bon. Il y avait suffisamment d'études qui démontraient les discriminations et donc on pouvait passer quasiment directement à la phase d'après, comment on fait pour lutter contre. Là, l'enquête des étudiants a bien montré que c'était pas si simple et qu'il y avait encore un tabou et un problème de reconnaissance de l'existence même de la question des discriminations. Deuxième élément par rapport à ce que soulignait à l'instant Alexis sur la tension entre discrimination et mixité sociale. Alors non seulement les acteurs du logement peuvent mélanger les termes, etc. et donc il y a probablement un besoin de formation comme le soulignait Antonio à l'instant, mais ça va plus loin, c'est-à-dire que parfois, au nom de la mixité sociale, qui est un impératif sacro-saint, d'une certaine façon, des politiques de logement aujourd'hui en France, on fait de la discrimination. Ça veut dire quoi ? Il y a une citation anonymisée, mais une citation quand même dans le rapport qui est tout à fait intéressante et frappante à cet égard, peut-être que vous vouliez la citer, mais le fait qu'au nom de la mixité sociale, on va privilégier par exemple des locataires blancs, ou qui sont perçus comme tels, ou d'origine donc française, etc., on se demande alors comment les bailleurs sociaux et les commissions d'attribution font pour distinguer, alors peut-être par le patronyme, je ne sais pas, le type de gens, mais il y a quand même ce sentiment que voilà, dans certains quartiers, dans certains immeubles, il y aurait trop de noirs et d'arabes, et donc au nom de la mixité sociale, il faudrait faire venir des blancs. Le problème, c'est que si on veut faire venir des blancs, et ben on discrimine. On discrimine le dossier, non pas sur la qualité, le revenu, etc., des gens, sur des critères objectifs, mais sur leurs origines. Et donc, il y a une tension, là, entre faire de la mixité sociale ou ne pas discriminer les gens selon leurs origines. Et ça, c'est quelque chose qui est rarement mis en avant, et c'est un élément qui ressort de façon assez frappante de ce rapport.
Et ce que je souhaiterais aussi ajouter, et qui est aussi l'un de nos principaux résultats pour les bailleurs sociaux, c'est que régulièrement, quand on évoquait la question des discriminations, on était systématiquement renvoyés sur la question des commissions d'attribution, les CAL, commissions d'attribution logement, parce que ces commissions sont strictement encadrées, elles ont des critères bien définis, lorsqu'elles se réunissent, ce sont des critères qui sont réglementés et définis par la loi. Pour autant, le fait que justement ces critères soient définis par la loi, pour les bailleurs sociaux, cela justifie le fait qu'il ne pourrait pas y avoir de discrimination, parce qu'ils respecteraient les critères légaux. Cependant, il faut noter que sur le territoire de la MEL, il y a pour 50 000 demandes de logement, seulement 12 000 peuvent être satisfaites. Donc cela fait environ un quart de demandes seulement qui ne peuvent être satisfaites. Et justement, pour certains bailleurs sociaux, le fait que des ménages n'aient pas leur dossier qui était retenu pour un logement pourrait créer un sentiment de frustration. Sauf que ce sentiment de frustration ne serait pas pour eux une discrimination, mais simplement une sorte de rejet du fait de ne pas avoir sélectionné par rapport à un autre ménage. Et c'est aussi, je souhaiterais aussi rappeler que dans le rapport du Défenseur des droits qui a été publié en décembre 2017, il notait qu'il y avait seulement 11% des plaintes qui ont été déposées pour discrimination qui concernent justement l'accès au logement, et que la plupart, je crois que c'était genre 85 ou 90% des personnes qui ont répondu, disaient que concrètement, si les victimes de discrimination dans l'accès au logement ne portent pas plainte, c'est parce qu'elles ont le sentiment que c'est inutile et qu'à terme, cela ne pourrait pas aboutir vers l'accession d'un logement.
Et donc voilà, pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, donc voilà, il y a eu des stratégies d'évitement qui ont été mises en place, et d'ailleurs ça a été l'un des principaux problèmes en fait auxquels on a été confrontés quand on a essayé de contacter des bailleurs sociaux ou des bailleurs privés, parce qu'en fait une fois qu'on abordait dans la prise de contact notre sujet d'enquête, donc voilà, il y avait tout de suite une fermeture du terrain. Et donc voilà, pour revenir sur ce que disait Alexis, donc voilà, il y avait ces stratégies d'évitement. Et puis il y avait aussi le fait que, sous couvert pour les bailleurs privés, notamment des mandats de gestion, ou sous couvert du fait que c'était des agences dites à vocation sociale, eh bien il n'y avait aucune réflexivité autour des pratiques des agents, parce que comme il y avait les mandats de gestion et comme c'était des entreprises, enfin des agences à vocation sociale, eh bien ces personnes, les acteurs, ne pouvaient pas discriminer. Et donc c'est pour ça que ça a été parfois difficile, même en entretien, et ça a même été sujet à conflit, puisque certains acteurs et certaines actrices avaient l'impression que, au final, les étudiants et les étudiantes qui les interrogeaient étaient là, en fait, pour les piéger. Et c'est ça, c'est aussi un extrait d'un entretien, c'est « me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je veux pas aller sur ce terrain-là, ce terrain est glissant ». Et d'ailleurs, ce qui nous a aussi interpellé, c'est quand on abordait la question, par exemple, bah, « pour vous, qu'est-ce qu'une discrimination ?» Donc voilà, ils nous sortent une définition qui est plurielle, puisqu'en fait, au final, il y a autant de définitions que d'acteurs et d'actrices. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que on a eu l'occasion de rencontrer des formateurs, donc des gens qui donnent des formations autour de ces questions de discrimination, qui maîtrisaient imparfaitement ces définitions. Donc du coup, ça pose question sur les personnes qui reçoivent ces formations et sur les comportements qu'elles peuvent éventuellement adopter. Et donc c'est sur ça et c'est ça aussi sur ça qu'il faut insister, c'est que oui, effectivement, il y a des rapports, il y a des études en sciences sociales qui montrent, qui chiffrent l'existence de ces discriminations, mais chez les acteurs et chez les actrices qu'on a eu l'occasion d'interviewer, d'enquêter, ce n'est pas clair, bien au contraire.
Je pense il y a une question qui est fondamentale aussi, c'est de bien connaître les dispositifs qui sont mis en place sur le logement. Parce que, par exemple, sur les commissions d'attribution, on a très peu de vues sur ce qui s'y passe effectivement, qu'est-ce qui est dit, qui y siège, quand, quoi. Et en fait, ces questions-là, elles peuvent permettre aussi d'expliquer mieux aux gens comment ça se déroule, de donner les informations. Et donc, en règle générale, sur les questions urbaines, les questions du logement, c'est très opaque, on a plein de sigles, on a plein de commissions, on a plein de bailleurs, c'est quelque chose qui est très compliqué, et sur lequel il faudrait vraiment avoir vraiment un travail de pédagogie pour mettre à disposition des habitants, pour qu'ils puissent connaître voilà comment est organisée la politique du logement, comment est organisée la politique urbaine sur un territoire. Ça, c'est quelque chose de fondamental qui puisse permettre aussi de faire avancer, je pense, avancer les choses.
Alors peut-être, si je peux me permettre d'interjecter ici, mais ça pourrait être intéressant que vous évoquiez justement les réflexions qui existent sur comment améliorer, par exemple, ces commissions d'attribution, en fait.
J'ai une petite question juste avant.
Ah, d'accord.
C'est quand même.
Bordel.
Qu'est-ce qui peut justifier un tel comportement?
Qu'est-ce qui peut justifier un tel comportement? Je pense que si on avait une réponse toute faite, on pourrait déjà mettre en place des dispositifs qui fonctionneraient d'emblée. Mais ce qui, selon moi, peut justifier ces comportements, c'est le fait que les discriminations ethno-raciales dans leur ensemble et les discriminations ethno-raciales dans l'accès au logement ont fait l'objet d'une reconnaissance vraiment tardive, progressive, mais tardive. Et donc, du coup, cette reconnaissance tardive a fait qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui un certain nombre d'habitudes et de routines qui se sont progressivement installées dans la société française et qui font que aujourd'hui on a un réel manque de réflexivité sur ses propres pratiques et qui fait que voilà, c'est d'autant plus difficile à combattre, mais pas impossible, bien sûr.
Cette question-là, je crois que c'est quand même important de rappeler que d'un côté, les discriminations sont le fruit de comportements plus ou moins ouvertement racistes et donc de discriminations directes. Par exemple, et je l'avais déjà abordé à ce micro il y a quelques mois, mais des propriétaires, par exemple, qui indiquent aux agences immobilières à qui ils demandent de louer leur logement, qui disent de façon implicite, mais il y a des documents, des archives qui existent là-dessus, pas de noir parmi les locataires que je veux recevoir dans mon logement. Et donc, il y a des formes de discrimination directe, que ce soit de la part de propriétaires ou d'agents chez les services sociaux.
Des codes à l'époque, BBR.
Tout à fait, bleu, blanc, rouge. Qui était d'une façon de dire, de façon un peu codée, qu'on voulait que des locataires blancs. Donc, il y a ce type de discrimination directe. Néanmoins, beaucoup des discriminations qui existent peuvent opérer par des mécanismes beaucoup plus insinueux et moins directs. C'est-à-dire que les gens, sans être foncièrement et ouvertement racistes, peuvent discriminer pour tout un tas de raisons. Par exemple, le cas que j'évoquais tout à l'heure, sur cette histoire de mixité sociale, l'idée qu'il faut mélanger, et c'est une question qui est compliquée. Je veux dire, en même temps, a priori, quand on en parle comme ça sans trop réfléchir à la question, on va se dire que mélanger les gens, c'est quand même plutôt mieux. Ça peut néanmoins se traduire par des comportements et des pratiques discriminatoires. Pas pour des raisons racistes, mais parce que la mixité sociale, c'est dans la loi, parce que l'on pense que c'est dans l'absolu une bonne chose. Et donc, il y a des routines institutionnelles, des formes d'impensée qui font que on reproduit sans véritablement le vouloir des pratiques discriminatoires. Après, je pense qu'il y a certain nombre de solutions, et c'est d'ailleurs pas forcément en pointant du doigt des comportements racistes d'un certain nombre d'acteurs qu'on va réussir à résoudre le problème, parce que ça a plutôt tendance à braquer les gens. Pauline et Alexis l'évoquaient tout à l'heure, le malaise des acteurs du logement qu'ils ont pu rencontrer par rapport à ces questions-là, c'est pas sûr. Bon, ça a discuté, mais c'est pas sûr que ce soit forcément en les stigmatisant et en les pointant du doigt qu'on fasse évoluer les choses. C'est peut-être plutôt en transformant les procédures, les dispositifs institutionnels, en changeant les mécanismes, qu'on pourra changer la donne.
Peut-être des choses à rajouter.
Par rapport à ce que Julien a précisé juste avant, j'aimerais juste rajouter aussi, je pense que ce qui produit aussi les discriminations, peut-être encore plus sur le territoire métropolitain, c'est qu'on est face quand même à un problème structurel dans tout le territoire, c'est la pénurie de logements, mais aussi le fait que les bailleurs, qu'ils soient publics ou privés, sont pris dans leurs contraintes de gestion et de rentabilité, parce que forcément, si on se met à la place d'un chargé de gestion locative, forcément, il serait plus tenté de prendre un ménage dont il a davantage de certitude et de gage qu'un ménage saura payer son loyer à temps, qu'il ne fera pas d'impayé, qu'il ne fera aussi pas de troubles du voisinage ou d'autres problèmes qui pourraient entraîner des coûts supplémentaires. Du coup, cette situation-là peut entraîner davantage.
Tous les critères que vous évoquez peuvent être aussi stigmatisants. Hein.
Ah bien sûr, tout à fait, je crois pour le coup là, voilà, c'est toute la difficulté. C'est pour ça que je disais que ça peut être parfois tout à fait involontaire, mais il est possible quand même qu'il existe un certain nombre de représentations chez les acteurs du logement, ceux qui siègent par exemple aux commissions d'attribution et qui se disent que une famille nombreuse d'origine maghrébine va mettre plus le bordel dans un immeuble ou dans un quartier qu'une bonne petite famille de Français de souche. Voilà, et c'est ce type de représentation qu'il faut déconstruire pour éviter les discriminations. Mais après, Alexis a tout à fait raison de rappeler qu'il y a un problème qui est structurel et c'est précisément parce que le marché du logement est très tendu que justement les bailleurs doivent faire des choix entre une multitude de dossiers, qu'ils vont se concentrer sur ceux qui leur apparaissent comme étant les dossiers les plus sûrs, et les dossiers les plus sûrs ont parfois une certaine couleur. Donc c'est ça la question. Et derrière, une des réponses dès lors aux discriminations dans l'accès au logement, ça peut être d'abord de construire davantage de logements sociaux.
Peut-être parler maintenant des préconisations.
Oui, alors dans le cadre de ce rapport, justement, juste avant, j'aimerais préciser que nous sommes intervenus donc pour quelques mois, mais maintenant c'est la promotion du Master 1 de sciences politiques de notre faculté qui prend la relève et qui poursuit la réponse à la commande de la métropole européenne de Lille.
Ils pourront venir à une prochaine émission d'ailleurs.
Bien sûr, ils sont... C'est ouvert, bon. Très ouvert même.
mais pour ce rapport, nous avons en fait formulé 4 préconisations générales. Donc d'abord, la première que nous avons souhaité annoncer à la MEL et plus largement aux acteurs publics et privés de logement, ce serait davantage de donner une plus grande importance à la fois politique mais aussi publique à la question des discriminations qui existent dans l'accès au logement, notamment des discriminations ethno-raciales dans l'accès au logement. C'est pourquoi nous avons suggéré devant des représentants de la MEL de donner une plus grande place à cet enjeu. Et on avait notamment en face de nous, lors d'un comité de pilotage, une représentante des politiques de peuplement de la métropole. Et donc justement, on souhaiterait que la lutte contre les discriminations ethno-raciales dans l'accès au logement soit une plus grande priorité, parce que le fait peut-être de proclamer que les discriminations ethno-raciales dans l'accès au logement soient un fait inacceptable pourrait, peut-être pas forcément de façon brutale, mais progressive, inciter davantage les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, du logement, à développer en quelque sorte une certaine retenue sur ces discriminations qu'ils produisent peut-être intentionnellement ou non. Et donc, peut-être de manière progressive, le fait de donner une plus grande importance pourrait avoir des effets positifs.
Donc ça pourrait passer par de la communication, de l'affichage, etc., pour montrer cette priorité.
Et après, en termes de préconisation aussi, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mais donner aussi une plus grande place aux associations. C'est-à-dire qu'il y a quand même peu d'associations qui sont mobilisées exclusivement sur le territoire métropolitain dans la lutte contre les discriminations ethno-raciales dans l'accès au logement. Mais les personnes qui sont mobilisées dans ce type de discrimination, ce sont des personnes qui ont accumulé un certain bagage, et ce sont des personnes qui seraient tout à fait aptes et compétentes à faire justement ces formations, les formations dont on parlait tout à l'heure, et donc aussi associer d'autant plus les associations au processus décisionnel, leur donner plus de visibilité et leur donner plus de moyens financiers aussi. Et pour revenir un peu sur l'idée de culpabiliser les agents, donc voilà, ça nous a été aussi reproché, mais l'idée c'était pas de culpabiliser qui que ce soit, c'était de faire prendre conscience aux gens qu'ils ne savaient pas, tout simplement, et que ça résultait de pratiques parfois conscientes, mais ça c'est une minorité. La majorité des cas de discrimination sont issus de pratiques inconscientes. Et donc l'idée c'était vraiment de faire se rendre compte, d'avoir une certaine réflexivité sur ses propres pratiques pour pouvoir limiter ces cas de discrimination. Donc ça, c'était l'une de nos préconisations. Mmh. Je te laisse.
Si je peux rebondir juste là-dessus, et peut-être que ce sera intéressant d'entendre également Antonio sur la PU, c'est que effectivement, il se dégage du rapport des étudiants que les associations ont un rôle à jouer très, très important sur cette question-là. Il y a aujourd'hui deux acteurs centraux au niveau association sur la métropole. C'est la PU de Moulins qui a fait un gros travail là-dessus. Je ne sais pas si la PU de FIV travaille spécifiquement sur la question des discriminations. Et à côté de ça, il y a l'association Kif Kif, donc qui est basée à Oisem, à Lille, qui a fait tout un travail, par exemple, sur les discriminations dans l'accès au logement privé, qui avait fait un testing, etc., sur, bon, d'ailleurs, des gens qui répondaient à des annonces, et selon l'accent, notamment, au téléphone.
Très récemment.
Marie-Chantal?
Oui.
Et donc, il y a quelques acteurs, mais ils ont pas tant de moyens que ça, et puis il en faudrait d'autres, en fait. Par exemple, sur Roubaix, les acteurs du logement sont très affaiblis, quand on pense aux associations de locataires. Il y a un collectif de lutte contre les discriminations qui s'est créé depuis quelques années, mais qui n'a pas été énormément soutenu par les pouvoirs publics, et j'emploie là un euphémisme. Il y a besoin d'avoir un soutien institutionnel plus fort pour une raison qui est bien simple, c'est que il faut faire de l'accompagnement des victimes. Il faut un intermédiaire entre les dispositifs institutionnels existants et les demandeurs de logement, parce qu'il existe des dispositifs. Le défenseur des droits a été cité au début de l'émission. Il y a, par exemple, sur le territoire roubaisien, des délégués du défenseur des droits qui ont des permanences toutes les semaines à la maison de la justice et du droit aux Trois Ponts pour précisément recevoir des plaintes, etc.
Aussi la tour de justice.
C'est pour ne citer qu'un chiffre, en 2015, ils n'ont reçu que 3 plaintes pour discrimination sur le territoire de Roubaix, ce qui est quand même hallucinant. Quand moi qui travaille là-dessus sur Roubaix, je recueille des expériences discriminatoires, j'ai envie de dire quasi quotidiennement, hein, dans les entretiens que je peux mener avec des habitants. Donc il y a des dispositifs publics existants. Le problème, c'est de faire le lien entre la population et ces dispositifs pour que y ait des plaintes s'il y a besoin de faire des plaintes, de la médiation, et puis surtout que les gens puissent s'exprimer et puissent face à comme le disait Antonio tout à l'heure, c'est pas facile de savoir si on n'a pas été retenu pour sa demande de logement. Est-ce que c'est parce qu'on s'appelle Mohamed? Est-ce que c'est parce que en fait notre dossier n'était pas suffisamment bien complet? Voilà, les gens s'interrogent. Et donc face à ces questions-là, ça peut être utile d'être accompagné. Les associations sont très bien placées pour cela.
Peut-être pour compléter ça, je pense qu'effectivement les assos, elles ont un rôle fondamental là-dessus, ne serait-ce que parce qu'elles réceptionnent une première demande, un premier problème d'une personne qui vient mettre sur la table, voilà, quels ont été les différents éléments de son dossier, qu'est-ce qui les constituait. Et l'association, en fait, d'une certaine manière, elle va entraîner le ménage, la famille, vers une forme de constat sur sa situation, et vers des stratégies pour essayer d'y remédier. Si l'association, elle est en capacité de mettre le doigt sur un constat très particulier, effectivement, là, apparemment, il s'agit de... ça a toutes les formes d'une discrimination rapport à son origine ou à cette question-là, elle peut effectivement beaucoup plus orienter vers le constat de cette présence des discriminations. Après, nous, on avait mis en place, mais il y a quelques temps, et sans mener à terme, des actions autour des questions de discrimination sur le genre, tout particulièrement avec le constat qu'il y avait beaucoup de familles monoparentales, de femmes seules avec enfants, en fait, qui venaient nous voir et qui étaient aussi dans des choses très compliquées par rapport à leur demande de logement, de logements sociaux notamment. Et puis sur la discrimination économique, là pour le coup c'est les ménages pauvres qui n'accèdent pas au logement social, parce que aujourd'hui on privilégie un logement social aussi de plus haute des catégories plus hautes, mais donc voilà, c'est vraiment un vrai enjeu au niveau associatif.
Et si on regarde sur les 20 ou 30 dernières années, il y a un essoufflement, je veux dire, des associations qui luttent sur ce champ-là.
Bah, je pense que c'est en règle générale des associations qui luttent sur les questions du logement. Effectivement, c'est très compliqué en ce moment, ne serait-ce que pour gérer en fait l'urgence, en fait, sans penser après à mettre en place des initiatives, à essayer de développer des axes de travail en interne sur ces questions-là. Là, on est déjà en train de se demander si on va continuer à vivre, en fait, si on va continuer à exister. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui est là très présent. Donc oui, aujourd'hui, on se dit qu'il y aurait vraiment beaucoup d'aspects sur lesquels on pourrait enclencher des choses. On a des ressources, les familles viennent nous voir, on se construit aussi intellectuellement autour de ces questions-là. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un peu compliqué, quoi.
Je parlais des réseaux anciens, CLCV, CNL, c'est d'eux que je parlais parce que c'est des réseaux qui existent depuis très longtemps et qui sont sur le champ du logement. Et on peut s'apercevoir, moi je peux vous parler de Roubaix parce que à Roubaix, il y a un vrai essoufflement de ces associations et qui est dû au manque, j'allais dire, de bénévoles dans ces associations. Et il y a pas de transmission, si vous voulez, qui se fait. Donc on reste avec des noyaux, c'est les mêmes personnes qui sont là et qui, malheureusement, avec le temps, sont usées.
Alors effectivement, que ce soit la CNL ou la CLCV, qui sont deux associations de locataires historiques et qui ont joué un rôle très important à Roubaix. J'étais déjà venu à ce micro pour parler de la lutte de l'Almagare dans les années 70-80. Au départ, les Le Mans étaient des militants de l'Association Populaire des Familles, qui va devenir la CLCV, donc des militants du logement et des droits des locataires. Ce type d'association continue à exister, la CLCV continue à exister, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de bénévoles, de militants qui sont prêts à s'investir. Et c'est d'autant plus dommageable dans le contexte actuel sur Roubaix que s'ouvre en ce moment une nouvelle phase de la rénovation urbaine, l'ANRU 2, avec des travaux très importants qui s'annoncent à l'Alma, au Cul-de-Four, à l'Épeule, et on manque cruellement d'acteurs collectifs pour pouvoir porter la parole et les intérêts des habitants. Au pile, le problème s'était posé, une table de quartier s'est constituée, on en a longuement parlé aussi au cours de cette émission, au cours des mois précédents, mais voilà, il y a besoin d'acteurs collectif pour pouvoir véritablement porter les intérêts des locataires et des habitants plus largement.
Alors, avant de faire une petite pause musicale et de faire une petite coupure, je voudrais peut-être vous redonner la parole pour justement peut-être essayer de conclure par rapport à l'étude que vous avez menée. Qu'est-ce que vous souhaiteriez rajouter ?
Que cette étude continue. Enfin, voilà. non, mais tout simplement. Mais, et d'ailleurs, ce qui va être, à mon sens, très bien, c'est que, voilà, comme Alexis vous l'a énoncé tout à l'heure, les étudiants et les étudiantes du Master 1 actuellement vont reprendre l'étude. Et là, ils vont aussi amorcer une réflexion en termes d'accès aux droits et vont aussi donner la parole aux principaux concernés. Parce que nous, on avait vraiment une réflexion en termes d'acteurs et d'actrices qui pouvaient potentiellement discriminer. Et on n'a pas eu, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a travaillé un peu à flux tendu, donc du coup il a fallu faire des choix, il a fallu aussi se répartir le travail, mais on n'a pas pu recueillir la parole des premiers concernés. Et ça me fait penser en fait à une citation de l'APU Moulin dans son guide, où l'APU dit « Les personnes discriminées sont pour nous des sujets parlants et non des objets parlés ». Et je pense que c'est sur ça maintenant qu'il faut insister et donner la parole aux principaux concernés pour ensuite proposer des choses qui seront plus en adéquation avec ce que ces personnes peuvent attendre.
Et je pense que justement ce changement de cadrage, c'est une bonne chose parce que nous, on intervient dans le cadre de la commande de la MEL, et nous, en quelque sorte, on a eu un niveau un peu plus méso, un peu plus macro, en nous intéressant aux acteurs, les bailleurs, etc. Et on a, je l'espère, réussi à instaurer un peu une sorte d'intérêt ou une confiance de la part non seulement de la MEL, mais aussi des autres acteurs qui étaient présents lors des comités, pour s'intéresser davantage à la question de la discrimination ethno-raciale dans l'accès au logement. Et maintenant, le travail des étudiants en Master 1 sera un peu plus micro et pourra justement poursuivre cet élan et voir concrètement comment se font les expériences discriminatoires, mais aussi justement pouvoir les relater aux acteurs qui peuvent discriminer intentionnellement ou non.
Ben, sachez que nous, à Passer les Femmes, on sera très heureux d'accueillir les suivants pour continuer à suivre un peu cette étude. Farouk, qui va nous faire une petite pause musicale, et on revient pour la seconde partie de l'émission.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Julien Talpin. On était en off, on va continuer la discussion.
Non, moi je replaçais simplement le contexte de l'étude dans les évolutions politiques et institutionnelles en ce moment qui se jouent à l'échelle de la métropole européenne de Lille, donc de la MEL, qui a décidé de lancer, les étudiants l'évoquaient tout à l'heure, un plan de lutte contre les discriminations, qui est désormais une obligation légale en fait. Depuis 2014, la nouvelle loi sur la politique de la ville, dite loi Lamy, oblige en fait les métropoles pour la signature de contrats de ville de mettre en place des plans de lutte contre les discriminations. Et des fois, on se dit quand même que le cadre législatif a des intérêts, puisque face au peu d'enthousiasme et de volontarisme des élus sur ces questions de discrimination, bah là, ils ont fini par s'y mettre parce qu'ils n'ont plus le choix, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut toucher les financements de l'État dans le cadre de la politique de la ville, on est obligé, même minimalement, de mettre en place un plan de lutte contre les discriminations. Donc la MEL s'y est mis, et c'est dans ce cas donc qu'on a fait cette étude. Et on peut se dire qu'il y a quand même une sorte de d'ouverture sur ces questions qui ont longtemps été déniées, pas spécifiquement d'ailleurs dans la métropole de Lille, hein, au niveau national bien évidemment. Une ouverture puisque il y a ce plan de lutte qui va progressivement se mettre en place avec quatre axes. Le logement, dont on a parlé, mais ils vont travailler également sur l'emploi, la santé et l'éducation, qui sont quatre domaines où les questions de discrimination se posent tout particulièrement. Il y a un budget qui va être créé, et donc voilà, il y a quand même une certaine volonté politique, et on peut imaginer qu'il va se passer un certain nombre de choses. Après, le budget demeure relativement réduit, et un des problèmes, c'est que en termes, et c'est des choses très qui peuvent paraître très anecdotiques, mais qui sont quand même révélatrices, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de salariés en fait de la MEL qui sont spécialisés sur ces questions de discrimination. Il y a une chargée de mission sur un territoire de plus d'un million d'habitants, c'est compliqué. Mais il y a quand même des choses qui bougent, d'abord à l'initiative de la loi Lamy, et puis maintenant cette volonté donc de mettre en place ce plan de lutte, à voir ce qu'il va donner, et puis surtout où iront ces financements. C'est-à-dire là on parle d'un budget, c'est pas encore très clair, mais peut-être de 100 000 euros annuels pour dédié à la lutte contre les discriminations. Est-ce que c'est un budget qui va servir à faire de beaux guides pour lutter contre les discriminations en papier glacé qui finissent dans les tiroirs? Est-ce que ça va servir, et il le faut en même temps, à faire des campagnes d'affichage pour dire que Lille est la capitale européenne de la lutte contre les discriminations, ou la capitale européenne du design, ou bon, alors c'est important la communication, ça indique aussi une volonté politique et voilà la hiérarchie des priorités quand même pour une institution. Mais c'est pas certain que ce soit suffisant, et ça a été évoqué tout à l'heure, la question de l'accès aux droits, de l'accompagnement des victimes et d'un travail plus collectif de mobilisation des premiers concernés sur ces questions-là est quand même important. Et donc on peut espérer que ces financements, ces budgets aillent aussi dans la direction de l'auto-organisation des victimes de discrimination, et que ça serve d'abord à ça.
Peut-être un commentaire sur cette ouverture sur.
Du coup, j'ai coupé la chiche à tout le monde. Non, peut-être une question en marge de cela, qui revient sur la question des préconisations qui étaient tirées du rapport. On l'a dit, pour revenir plus spécifiquement sur la question des discriminations dans l'accès au logement, et notamment du logement social ici, un dispositif où se jouent beaucoup de choses, ce sont les commissions d'attribution des logements. Et là, il y a un certain nombre de réflexions sur comment ces commissions, qui rassemblent un certain nombre d'acteurs, des techniciens du logement, mais aussi bien souvent des élus, parfois des représentants d'associations de locataires aussi, ça arrive, ça dépend des villes. Il y a des réflexions en tout cas qui sont menées ici ou là sur comment on pourrait améliorer ces processus d'attribution des logements sociaux pour les rendre peut-être plus justes et en tout cas moins discriminatoires. Et là, ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue des étudiants de ce point de vue-là.
Donc là, nous, et c'est ce qu'on avait préconisé à la MEL, il pourrait y avoir finalement deux leviers. Donc un premier levier qui serait un levier de contrôle des commissions d'attribution, avec un enregistrement permanent de ces dites commissions pour qu'il puisse y avoir un contrôle a posteriori des décisions qui étaient prises pendant ces commissions. Et pourrait y avoir aussi la mise en place de ce qu'on appelle les pratiques de scoring. Donc ça a été mis en place notamment à Rennes Métropole. Et donc le scoring, c'est l'idée d'anonymiser complètement les demandes d'attribution logement. Et donc l'idée, c'est de donner des points en fonction de certains critères, donc critères de ressources, etc. Et ensuite, sur la base de ces points, de décider en commission d'attribution logement de manière totalement anonymisée.
Moi, j'ai une petite question sur la composition des commissions. Est-ce que c'est public ?
Alors là, je dois te dire que tu me poses une colle, mais je pense que en l'occurrence, ça l'est. Oui, je pense que c'est variable d'une ville à l'autre. une question qui est quand même importante, c'est la participation des élus. Je vais parler à un titre plus personnel et plus citoyen, mais moi je pense que à ces commissions-là, les élus ne devraient pas pouvoir siéger. Il faut quand même le dire et le rappeler que l'attribution des logements sociaux a été historiquement un levier important de clientélisme électoral et on donnait les logements en espérant qu'en retour les habitants votent comme on l'attendait. Bon, je suis pas sûr que ce soit le critère premier qui doit prévaloir dans l'attribution des logements. Je dis pas que c'est le cas, mais il y a pu avoir un certain nombre de problèmes de ce point de vue-là, et donc il serait peut-être souhaitable que les élus ne participent pas et qu'à l'inverse, ils puissent avoir des représentants de locataires. C'est parfois le cas, c'est pas toujours le cas. On a dit tout à l'heure à quel point ils étaient affaiblis, et donc que en tout cas les habitants soient davantage représentés. Moi, je sais qu'il y a eu des expériences un peu participatives qui ont été menées, par exemple par des bailleurs sociaux aussi à Poitiers. De ce point de vue-là, on pourrait très bien imaginer que dans les commissions d'attribution des logements, il y ait tiré au sort des habitants du quartier en question qui puissent venir apporter un autre point de vue, en fait. Non pas dire qu'ils ont forcément la vérité révélée, mais que entre le point de vue d'habitants tirés au sort, le point de vue d'association, le point de vue de technicien, peut-être qu'à part de tout ça, on pourrait trouver de bonnes solutions. Et puis la diversification du profil des participants est peut-être aussi un gage de transparence et d'équité dans cette attribution. Bon, c'est un des éléments. Moi, je crois quand même que les pratiques de scoring, l'anonymisation, etc., sont aussi des éléments qui vont dans le bon sens.
Mais c'est bien que vous parliez de transparence, parce que moi, quand on parle de logement et d'attribution, tout de suite, ça me paraît opaque. On dirait qu'il y a une vitre noire d'un seul coup et qu'on ne sait plus ce qui se passe. Et c'est une vraie impression, et c'est peut-être aussi à cause de ça qu'on a beaucoup de personnes qui baissent les bras, parce que ils savent que leur dossier va finir soit mis à l'écart, soit dans une poubelle, ou soit sur une pile, et sera en dessous de la pile. Donc il y a une vraie perception. Quand on parle de logement, vous parlez de logement d'attribution, c'est l'impression que vous avez.
Et après, en plus, faut quand même dire que c'est compliqué, ces questions, dans le sens où on peut avoir deux positions, en fait, sur la question de l'attribution des logements. Il y a un certain nombre de gens qui plaident pour faire de la dentelle, en fait. Je l'évoquais tout à l'heure un peu en creux quand j'évoquais la question de la mixité sociale, qui est de dire pour que un quartier vive bien, il faut que les gens à qui on attribue les logements correspondent au fond à ce quartier-là. Et donc on va regarder très en détail au fond le profil des gens et pour voir si la mayonnaise va prendre et que il y a pas de problème qui se crée. Et il y a eu des pratiques de cet ordre-là. Moi, je sais par exemple, j'avais travaillé là-dessus sur des archives à l'ALMA, où il y avait une participation assez forte des habitants à l'époque, issus de la lutte de l'atelier populaire d'urbanisme, qui participaient et qui faisaient cette dentelle-là et qui regardaient dans les commissions d'attribution. Le problème, c'est que ce travail très fin, on va regarder précisément le dossier des gens pour voir si ça pourrait coller avec les autres habitants du quartier, etc. C'est un peu aussi la porte ouverte à des pratiques discriminatoires. Et donc, on a d'un côté le pôle de « on va faire de la dentelle et on va mettre vraiment au cas par cas et choisir quel habitant ira mieux pour le quartier ». Et à l'inverse, le truc hyper objectif où on va neutraliser toutes les possibilités de discrimination avec des dossiers anonymes, avec un système de points, etc. Moi, je suis pas non plus, et je dis pas qu'il y a de solutions simples à tout ça, mais objectiver un petit peu les critères, effectivement, ça peut en plus déconstruire toutes les appréhensions que tu évoquais à l'instant, les formes de paranoïa qui peut aussi se rencontrer quand son dossier n'est pas pris, quand par ailleurs on n'arrive pas à trouver un boulot, etc. À un moment on commence à se dire qu'il y a un problème et que c'est peut-être plus son nom que ses compétences qui sont prises en compte, quoi. Et donc tout l'enjeu précisément de faire ce travail d'accès aux droits qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de démontrer s'il y a discrimination, si c'est le cas, parce que ça arrive quand même bien souvent, et puis parfois de démontrer qu'il n'y a pas eu discrimination, qu'au fond on n'a pas été retenu pour de bonnes raisons, et je pense que les gens sont prêts à l'entendre, mais il faut pas balayer d'un revers de la main leurs interrogations dès le départ.
Peut-être pour rajouter, nous à FIV, il y a eu une grosse, dans le quartier de FIV, il y avait une grosse opération pour la construction de la voie rapide urbaine qui avait demandé à raser 700 maisons, déplacer près de 2000 habitants, et en fait il y avait des associations qui s'étaient organisées pour essayer de peser sur le relogement des ménages. Qui qui allait être logé où, quoi, quand, comment. Et donc, il y avait une commission qui s'était réunie, les associations et les habitants avaient réussi à peser, en fait, pour avoir quasiment 50% des postes dans la commission, et donc pour avoir un vrai poids sur les décisions qui allaient être prises quant au relogement des ménages. Et donc là, on voit que il y a eu des moments, alors pas à une échelle à l'échelle d'une ville ou à l'échelle de la communauté urbaine, sur des petites échelles, mais les habitants avaient leur mot à dire sur qui va habiter le quartier, qui concrètement va venir habiter ici, et donc des discussions qui se jouaient au sein de cette commission et qui après se rejouaient dans le quartier, au sein des voisinages, où les gens pouvaient dire ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient vu, et il y avait une sorte de diffusion en fait de l'information de ce qui se passait et de cette instance là qui était décisionnelle et qui disait qui allait à l'information était diffusée dans le quartier. Donc ça n'empêche pas les conflits, il peut y avoir des conflits, des gens qui soient pas d'accord avec tel ménage qui est relogé à tel endroit, pourquoi lui, pourquoi, mais au moins les choses étaient discutées en fait, et tout le monde venait en discuter, et ce qui se disait à l'intérieur de cette commission n'était pas du tout confiné à l'intérieur de quelques cénacles, mais se diffusait dans le quartier. Et donc la place des habitants dans les politiques de peuplement en fait, qui décide de qui on veut attirer sur tel territoire et qui on veut faire partir de tel autre, c'est quelque chose qui, je pense, empêcherait ou éviterait qu'il y ait beaucoup de malentendus, beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits et de
moi, j'ai toujours de difficultés. La difficulté avec ce mot politique de peuplement.
C'est un peu un gros mot, hein, on est d'accord. C'est juste de dire.
C'est vraiment prêt. On a vraiment l'impression d'organiser la ségrégation. Ça, c'est moi l'impression que j'ai. Hein. Quand j'entends ce mot-là, ça me choque tout le temps. Je me dis, mais d'où vient ce terme ?
Je ne saurais pas répondre, peut-être que Tonio sera plus compétent que moi, mais pour le coup, l'émergence de ce mot, me semble-t-il, vise précisément plutôt à lutter contre la ségrégation, en fait, de dire que la ségrégation socio-spatiale, la ségrégation territoriale, elle existe, et donc si on veut lutter contre, il faut déjà la démontrer. On a des éléments et des travaux de sciences sociales de ce point de vue-là, et après mettre en place un certain nombre de politiques publiques pour lutter contre. Alors après, c'est vrai que le terme peuplement, on a un peu l'impression de traiter les gens comme du bétail, mais il me semble pas, en tout cas, que l'intention initiale soit forcément nécessairement coloniale, quoi.
Après, c'est peut-être juste aussi de montrer qu'aujourd'hui, en fait, la façon dont les populations sont réparties dans la ville, ça tient beaucoup à des décisions de l'État en fait, et ça tient beaucoup à une histoire, c'est-à-dire que on peut revenir là-dessus, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État a un rôle fondamental dans la façon de dire telle population va habiter à tel endroit, dans telle zone et dans telle, et donc ce gros mot de peuplement, il veut aussi dire que aujourd'hui il y a le marché d'un côté qui fait que quand c'est trop cher, de toute façon les populations qui ont pas d'argent sont obligées d'en sortir, et puis on concentre la richesse à un endroit, et sur les zones où il y a plus de pauvreté, c'est l'État qui a la main, c'est l'État qui décide via des politiques de mettre en place ici on met certaines populations, là maintenant il y a on considère que c'est trop concentré, trop de pauvres, voilà, et donc il faut faire la mixité, il faut revenir, c'est l'État qui décide de la manière dont les populations se répartissent sur le territoire. C'est ça que je pense que ça veut dire politique de peuplement.
Non, mais c'est vrai que ça peut être ça peut partir de bonnes intentions, mais après, ça peut complètement changer de sens. Hein. Au départ, je pense qu'on parle, ça va dans un bon sens, hein. Mais après, ça peut être complètement détourné. Hein.
Moi, je pense que c'est plutôt cette question-là qu'il faut interroger. Moi, c'est la mixité sociale, et j'en parlais tout à l'heure, en fait. Non pas dire que la mixité sociale est une mauvaise chose en soi, mais c'est que aujourd'hui, c'est une sorte. Il y a peu de choses qui sont aussi consensuelles dans la société française aujourd'hui que la notion de mixité sociale. C'est le nouveau Graal, et peut-être à juste titre, on a tous envie de vivre dans une société mélangée, aimons-nous les uns des autres, etc. Et c'est génial. Le problème, c'est qu'il faut regarder à un moment les effets des politiques de mixité sociale. Au profit de qui se fait et se font ces politiques de mixité sociale. Il se trouve, et il y a beaucoup de travaux qui le démontrent, que c'est ces politiques de mixité sociale qui passent beaucoup par des projets de rénovation urbaine, de la démolition, de la reconstruction, des politiques de peuplement, etc., se font bien souvent au détriment des plus pauvres, en fait. Et que au nom du mélange des populations, on va expulser ou délocaliser les habitants les plus précarisés loin des quartiers où ils habitaient, pour faire venir des classes moyennes, etc., faire venir des blancs dans certains quartiers. Bon, voilà, Ce qui ne veut pas dire qu'on va mettre la mixité sociale à la poubelle. C'est, il faut simplement déconstruire un peu nos idoles et réfléchir aux conséquences concrètes de ces politiques-là, en disant peut-être que plus que la mixité sociale comme absolue, qu'est-ce qu'il faut viser, c'est d'abord l'intérêt, et là on parle de logement, l'intérêt locatif de la population la plus pauvre et la plus précarisée. C'est peut-être d'abord ça qui devrait être l'objectif des politiques de logement, d'abord, plutôt que la mixité sociale en tant que telle, surtout quand elle se fait au détriment de ces populations les plus précarisées.
On fait une petite pause et on revient.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
sur les ondes de Pastel FM, toujours avec nos amis de l'APU de Lille-Fives. Tonio, peut-être nous dire sur cette dernière demi-heure.
Voilà, ça, là on vient de passer une heure très intéressante, hein, c'est ce qu'on se disait là tout à l'heure, c'était très dense, il y avait beaucoup de choses, et on voulait sur la dernière demi-heure là essayer de repartir sur une autre question, qui est la question de l'hébergement, la question de d'avoir un toit sur la tête, de pas dormir dans la rue, et de comment ces choses-là sont organisées aussi, notamment avec une nouvelle circulaire là qui est tombée, la circulaire Colomb, assez récemment, et les plans grand froid qui sont mis en route, notamment là comme ces derniers jours quand vraiment il fait très très froid, les températures descendent en dessous de zéro, qu'est-ce qui est mis en place. Et donc on a demandé à Vianney qui fait partie de la PUFIV de l'asso et puis qui a un peu bossé sur le sujet de nous expliquer. Alors je sais pas si tu peux nous dire rapidement Vianney ce qu'il en est.
Alors il y a plusieurs choses. Tonio m'a proposé de venir parler de l'hébergement. En gros il y a eu plusieurs trucs, en fait il y a eu des déclarations récemment du gouvernement. Il y a actuellement le plan grand froid qui est enclenché. En décembre, il y a eu donc la circulaire Colomb, comme l'a dit Tonio. Alors, j'ai peut-être juste pour commencer, pour préciser donc la différence entre l'hébergement et le logement, parce que souvent on fait une confusion là-dessus. En fait, l'hébergement, on n'est pas titulaire de son bail. On est donc hébergé par quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être un ami, un proche, ça peut être un hôtel, et donc dans ce cas, on paye. Puis donc, ça peut être des structures spécialisées, donc des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ou des centres d'hébergement d'urgence.
Ça, c'est quoi? C'est la Bège et tout?
Sur la métropole, il y a des grosses associations comme la Bège, l'Armée du Salut. Sur Roubaix, il y a l'accueil fraternel roubaisien,
AFR.
Ouais, c'est HRS, ouais, exactement. En fait, le système d'hébergement, il est divisé en deux. En gros, il y a l'hébergement d'urgence et il y a l'hébergement d'insertion. Et donc, en fait, justement, c'est là-dessus, c'est de ça dont je voulais parler. Et donc, la principale différence entre hébergement et logement, c'est le fait qu'on soit titulaire d'un bail ou pas. Dans le logement, on est titulaire d'un bail, alors que l'hébergement, on n'est pas titulaire d'un bail. Et donc, il y a cette grosse division entre hébergement d'urgence et hébergement d'insertion. Et du coup, je voulais parler de ça parce que le 12 décembre 2017, là, donc tout récemment, il y a le ministre de l'Intérieur, Monsieur Colomb, qui a donc fait passer une circulaire qui disait que, grosso modo, donc dans l'hébergement d'urgence, il fallait identifier les personnes sans papier en vue de leur proposer, soi-disant, un meilleur accompagnement, une meilleure prise en charge.
Alors, un meilleur accompagnement vers l'avion du retour, c'est ça?
Exactement. En gros, c'est ça. Alors, c'est évidemment pas dit comme ça, et il va s'en défendre que ce soit ça, mais évidemment, en gros, c'est ça. L'idée, surtout quand on voit ce qui s'est en train de préparer avec la loi asile-immigration, en gros, on sait que concrètement... Alors, pourquoi ça pose problème? Bah, parce qu'en fait... une spécificité de l'hébergement d'urgence, c'est qu'il est inconditionnel. Inconditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe ta couleur de peau, peu importe tes revenus, peu importe ton âge, etc., ton sexe, tu as droit à un hébergement. Alors le seul critère, c'est d'être en situation de détresse sociale, physique ou psychique. Et donc du coup, concrètement, à l'entrée des hébergements d'urgence, on ne demande pas tes papiers, tu as droit à une place. Alors évidemment, il y a tout le problème qu'il y a une pénurie de places, il n'y a pas assez de places, et donc du coup, il y a ce problème qui se pose. Mais en tout cas, dans les hébergements d'urgence, jusqu'à présent, les travailleurs sociaux ne pouvaient pas, n'avaient pas le droit de demander, et ne le faisaient pas, parce que globalement, c'est des gens qui font assez bien leur travail. Qui, voilà. Donc la circulaire, elle vient dire ça, et elle vient dire qu'il va falloir faire un tri, en gros, entre les bons et les mauvais pauvres. Et en gros, les bons pauvres, c'est avec les personnes en situation régulière, et les mauvais pauvres, c'est avec les personnes en situation irrégulière. Et donc juste par rapport à ça, il y a eu un recours de 28 associations qui a été posé pour dire que cette circulaire, c'était une circulaire... Alors eux n'utilisent pas le terme, mais grosso modo, c'est une circulaire raciste, une circulaire xénophobe. Et il y a eu un avis du Conseil d'État qui est tombé là le 20 février. Alors le Conseil d'État a dit qu'il se refusait à suspendre l'application de la circulaire. En revanche, il a bien précisé que les personnes avaient le droit de dire... les personnes hébergées avaient le droit de dire seulement ce qu'elles voulaient, et que les agents de l'État qui vont venir dans les hébergements d'urgence pour voir qui est en situation régulière ou non, n'ont pas le droit de contraindre les personnes à dire des choses qu'elles n'ont pas envie de dire, et donc notamment leur statut administratif. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, sur le fond de la circulaire, le Conseil d'État devra se prononcer dans plusieurs mois.
Et donc on verra si ce principe d'inconditionnalité va être remis en cause ou non. Mais en tout cas, enfin, c'est vraiment un truc, faut vraiment avoir conscience, c'est un truc qui est hyper hyper important, hyper flippant aussi, parce que jusqu'ici, les personnes dans les hébergements d'urgence, on leur demandait pas leurs papiers, alors que là, concrètement, on arrive vers un truc qui est hyper flippant, où concrètement les gens vont pouvoir être mis à la porte et, comme tu disais, justement progressivement mis dans l'avion, quoi.
Les assos, si je me souviens bien, elles dénonçaient ça en se disant mais c'est soi-disant un gouvernement de gauche ou de centre qui met en place des circulaires comme ça, mais on se croirait sur la droite. Et donc là, vraiment, les 28 associations, je crois que c'était un peu inédit quand même, une levée de bouclier comme ça, aussi importante sur cette question, en se disant mais là on est en train de toucher à des choses, on est sur les terres de la droite extrême et de l'extrême droite, en fait, hein, sur ces questions-là, quoi.
Ouais, alors il y a eu effectivement des prises de position des associations, et puis il y a aussi eu le défenseur des droits, là, qu'on a évoqué un petit peu sur les questions de discrimination dans le logement. Et donc le défenseur des droits, bon, c'est quand même quelqu'un qui est très haut placé, hein, c'est pas un gros militant, quoi. Mais même lui a dit qu'on était dans une régression sans précédent sur le droit à l'hébergement, et que, en fait, ça augurait des choses assez flippantes. Moi, sur les personnes que j'ai interrogées dans le cadre de mon travail sur les questions d'hébergement, il y a des travailleurs sociaux qui me disent, mais concrètement, la prochaine étape, c'est qu'on va nous demander de les mettre dans les trains, quoi. En faisant référence à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, a priori, ça va pas jusque-là, mais comme tu disais, finalement, c'est pour identifier des personnes pour, sous couvert de dire on va mieux les accompagner, en fait, concrètement, au bout de la procédure, dire vous êtes en situation irrégulière, donc vous devez quitter le territoire.
Ouais, c'est mâcher le travail pour les forces de police.
Exactement.
En tout cas, c'est de mettre aussi les travailleurs sociaux dans les mêmes logiques que les forces de police, que les questions de migration. Et c'est sur les travailleurs sociaux en eux-mêmes aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent vraiment des grandes questions, quoi, en disant nous, on avait l'impression d'être un peu la main gauche de l'État, celle qui aide les gens, celle qui vient apporter des soins, celle qui vient mettre un toit au-dessus de la tête. Et là, aujourd'hui, on est en train de nous faire passer de la main gauche à la main droite. En fait, on accompagne et on est dans les mêmes procédures que la police, les mêmes procédures que le contrôle, que la répression, et ça c'est juste incroyable, quoi.
Ouais, il y a aussi une autre travailleuse sociale qui m'a dit mais ça, concrètement, c'est le boulot de la police, c'est pas notre boulot à nous, donc on sait pas où on va. Et juste sur cette circulaire, pour terminer là-dessus, en gros, la circulaire dit que donc ce seront des équipes mobiles qui vont se rendre dans les hébergements d'urgence, et ces équipes mobiles, elles seront composées de au moins 3 personnes, et donc il y aura un travailleur social qui, comme dit Tonio, sera a priori la personne de confiance, qui est la main gauche de l'État. Et à côté de ça, donc il y aura 2 autres personnes qui seront un agent de la préfecture et un agent de l'OFI, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et concrètement, on est vraiment à la limite extrême d'un travail de policier, quoi.
Donc là, tout ça, c'est le répressif pur et dur.
Ouais. Répressif pur et dur. Et puis il y a eu d'autres choses sur ce sujet là. Donc là, en ce moment, on l'a tous remarqué, il fait très froid. Donc il y a ce qu'on appelle la veille saisonnière. Donc la veille saisonnière, ça ressemble au principe de la trêve hivernale dans le logement. Donc le principe sur le logement, c'est qu'on peut pas l'État ne peut pas expulser les gens entre le 1er novembre et le 31 mars. Et donc sur l'hébergement, il se passe un truc à peu près. Enfin, il se passe également des choses, c'est-à-dire qu'en fait, il y a davantage de places d'hébergement qui sont ouvertes pendant cette période. Et en fait, ça veut dire plusieurs choses, parce que ça veut dire que d'une part, les pouvoirs publics ont conscience que le reste de l'année, il n'y a pas assez de places pour héberger tout le monde, et donc uniquement quand il fait froid, on décide d'ouvrir un certain nombre de places supplémentaires. Et puis surtout, ces places supplémentaires, leur ouverture, elle est liée au degré, à la température ambiante, c'est-à-dire que il y a différents niveaux, il y a différentes gradations, il y a le plan jaune, le plan orange et le plan rouge, et donc en fonction des températures, un certain niveau se déclenche et il y a un certain nombre de places qui supplémentaires qui sont ouvertes. Alors là, vu les températures qu'il a fait tout récemment, c'était le niveau rouge qui était déclenché, parce qu'en plus c'est sur la température ressentie, on était au niveau de moins 10 voire un peu moins même. Et donc du coup là, c'était là dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On réquisitionne des gymnases, on ouvre des lieux publics pour pouvoir en fait mettre les gens à l'abri. Mais concrètement, ce truc-là se termine le 31 mars. Donc là, dans un mois, les personnes sont remises à la rue. Alors, l'État dit que ce n'est pas vrai, qu'il trouve des solutions, mais en fait, c'est vrai. Enfin, les personnes se retrouvent à la rue à la fin de la veille saisonnière, quoi. Et ça, faut avoir conscience que c'est ce que les associations dénoncent comme une gestion au thermomètre. Et en fait, c'est quelque chose qui est hyper cynique, qui est complètement ancré dans le droit français. Surtout que, en fait, donc le reste de l'année, les personnes sont toujours à la rue, et surtout que, en fait, un gros problème, c'est que par exemple pendant les mois d'été, il y a un certain nombre de structures qui ferment. Et en fait, les variations de c'est pas tant le froid que les variations de température qui posent problème pour les organismes. Et donc du coup, par exemple, en été, quand d'un seul coup il y a des grosses vagues de chaleur, en fait, les personnes qui sont à la rue, qui peuvent se mettre à l'ombre nulle part, qui peuvent boire, qui peuvent pas boire, qui ne peut pas se reposer, en fait, sont tout aussi exposés que pendant les périodes hivernales.
C'est quand même, on se fait réflexion, même quand on connaît pas en fait tous ces dispositifs là, on se fait quand même la réflexion de, on donne voilà de telle date à telle date, là on va aider, mais après on arrête d'aider. Si ça descend en dessous de 10, eh ben là on va se mettre à aider fort. Enfin, on se dit mais pourquoi? Enfin, c'est voilà.
Si hein, ça
c'est,
passe 40, on commence. À...
mais voilà. Mais on se dit mais c'est, enfin, on est juste en train de parler de dormir au chaud en fait quoi. Et on se dit mais pourquoi ces trucs-là sont pas mis en place? Je veux dire toute l'année, même s'il fait 2 degrés, alors là non, mais pas en place. S'il fait moins 2, là on met en place. Enfin, c'est ça n'a pas de sens. Enfin, bah oui, c'est vraiment la gestion au thermomètre, c'est vraiment ça. Et on se dit, il y a les moyens en fait. Hein. Voilà, il y a les moyens. Vu que ça peut être débloqué si ça descend, il y a les moyens. Mais si pour restreindre et mettre le moins d'argent possible, bon ben voilà, on utilise des critères comme ça, c'est quand même complètement dingue.
Mais c'est des choix financiers, donc des choix politiques. Hein.
Ah, complètement.
Exactement. On est sur des logiques comptables. Mmh. On est clairement sur des logiques comptables. Quel argent on donne à cette question de être hébergé, de pouvoir dormir au chaud?
Complètement. Tous les ans, il y a un appel à projet qui est publié par l'État, enfin, sa branche locale, donc la direction départementale de la cohésion sociale. Il y a un appel à projet qui dit qu'il va débloquer des fonds pour financer justement l'ouverture de ces places. Et cet appel à projet ne porte donc que sur du 1er novembre au 31 mars, le reste du temps, c'est des financements, c'est le financement classique, et donc du coup, voilà. Mais c'est vraiment, comme tu disais, c'est des choix politiques, quoi. C'est sous couvert de choix économiques, de choix techniques, en fait, c'est des choix politiques très forts, ouais. Qui consistent à dire qu'on s'occupe des SDF pendant l'hiver, mais le reste du temps, on les oublie, quoi.
Parce que ça pose aucun problème de donner 300 000 euros pour un avion pour le Premier ministre.
Absolument.
Bah après, on fait les comparaisons, elles sont dans les médias, les chiffres, les sommes, on les a dans les médias. Donc après, on est bien obligé de comparer avec ce qu'on a, effectivement. Ouais. Ouais, c'est un peu triste.
Il y avait un dernier truc sur ce sujet. Une opération de com en fait qui a été faite par le gouvernement là pendant tout le mois de janvier. Alors juste pour restituer, en juin dernier ou en juillet dernier, je me souviens plus précisément, mais président Macron a dit que bon comme ses prédécesseurs, hein, pour le coup ça c'est,
il a dit qu'il y aurait plus personne dans la rue,
plus personne dans la rue, zéro SDF à la fin de l'année. Alors là il s'est engagé à faire ça en 6 mois, ce qui aurait été un exploit assez incroyable. Mais donc du coup il a dit ça, et en fait à partir du milieu du mois de décembre et puis pendant tout le mois de janvier, on a vu en fait tous les bons petits soldats du gouvernement prendre la parole pour dire que en fait effectivement soit il y avait très très peu, il restait très très peu de personnes dans la rue. Il y a notamment le secrétaire d'État Julien de Normandie, le secrétaire d'État au logement, qui a dit qu'il ne restait très précisément que 50 hommes seuls dans les rues de Paris dans la rue. À côté de ça, il y a Christophe Castaner, donc le porte-parole du gouvernement, qui a dit que les personnes qui restaient dans la rue en fait refusaient d'être logées. Et donc d'ailleurs, il a fait une confusion entre logement et hébergement, donc ce qui montre qu'il connaît bien le sujet. Et puis il y a Sylvain Maillard, qui est un député de la de la majorité, donc la République En Marche, qui en a rajouté une couche et qui a dit qu'effectivement ces gens-là choisissaient de rester dans la rue, ce qui est bien connu, ce qui est une évidence par les températures qui courent. Alors il faut quand même dire une chose, c'est qu'effectivement il y a bien une minorité de personnes qui refusent d'être hébergées à cause des conditions d'accueil dans les centres d'hébergement, qui sont en fait des conditions
et d'insécurité.
Oui, exactement. Effectivement, il y a de l'insécurité, il y a tout un tas de problèmes qui sont en fait liés concrètement au manque d'argent qui est mis pour la rénovation des centres et pour un accueil digne en urgence. Juste en réaction à ces prises de parole, il y a eu une montée au front d'un certain nombre d'associations qui ont dit que c'était complètement indécent de dire des choses comme ça. Et puis surtout, alors en l'occurrence là, on quitte un petit peu, enfin on quitte complètement la métropole pour aller sur Paris, mais il y a eu une action qui a été lancé en lien entre la mairie de Paris, le SAMU social de Paris et un certain nombre d'autres associations pour faire un décompte très précis donc du nombre de personnes qui restaient à la rue, donc dans les rues de Paris, et ils ont appelé ça la nuit de la solidarité. Donc ça a eu lieu là il y a une dizaine de jours, et ils sont arrivés au chiffre de 3000 personnes, un peu plus de 3000 personnes qui étaient encore dans la rue, et donc qui enfin voilà, c'est pas grand-chose et c'est déplorable qu'il reste 3000 personnes, mais au moins, et ça a en partie mis au placard toute cette opération de communication du gouvernement, et surtout ça montre tout ce qu'il reste à faire pour effectivement accueillir dignement et héberger dignement les personnes sans domicile, quoi.
Super, merci beaucoup. Et je pense que c'est un truc important, parce que c'est vrai que nous, l'émission là, à nous la ville, elle parle beaucoup des questions de logement. Je pense c'est une thématique fondamentale. Mais il y a effectivement, en fait, en dessous du logement, il y a des gens qui n'ont même pas accès, voilà, à un logement pérenne dans lequel ils puissent se projeter au moins quelques mois et quelques années. Et donc cette question de l'hébergement, elle est fondamentale, quoi. Pour finir l'émission, là, il reste quoi, un quart d'heure.
Ouais, c'est ça.
On voulait parler un petit peu d'une initiative qu'on organise nous, l'atelier populaire d'urbanisme de FIV, l'APU FIV. Justement, on en parlait tout à l'heure, là il y a une trêve hivernale en fait qui se met en place et qui bloque toutes les expulsions de logements entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc 31 mars, c'est là maintenant dans quelques jours, à la fin du mois. On a l'habitude, les ateliers populaires, les APU AFIV, et puis quelques autres assos, la CGT Indécosa, la CNL, d'organiser une manif de fin de trêve hivernale. Donc à la fin de cette trêve, à partir du moment où effectivement les expulsions peuvent se remettre en route et on peut remettre des familles et des gens à la rue parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer, on essaye de marquer le coup en sortant dans la rue. Donc là le samedi 31 mars, donc ça se déroulera à Lille à 14h sur la Grand Place de Lille, une manifestation qui va se mettre en route et qui va essayer de voilà d'alerter l'opinion publique, d'alerter les médias sur le fait que oui, à partir de maintenant, on remet des gens à la rue. Et nous là au sein des assos, les APU, on est un peu pris par les dossiers qui sont un peu urgents, où on voit que voilà, ça va être compliqué de sortir du de la procédure d'expulsion, qu'elle est déjà bien avancée, et donc nous on a quelques dossiers à l'APU FIV où on se dit on espère vraiment que ces trois familles-là vont pas se retrouver à devoir dormir dehors et à se faire expulser par la police. Donc on organise cette manifestation-là, et puis cette année, à la PU FIV, on voulait marquer un peu plus le coup, en se disant on va pas se contenter que de cette manif du samedi, et donc on fait tout un tas d'actions, spectacles, débats, projections, concerts du 26 mars au 1er avril. Ça se déroulera dans nos locaux chez nous à la PU FIV au 57 rue de Flers pendant la semaine, et à partir du vendredi soir, samedi soir, dimanche toute la journée, ça sera à la Bourse du Travail de Lille, donc boulevard de l'Usine, aussi à FIV dans le quartier. Et donc on va projeter, faire des projections de films. On aura le film sur le pile permis de démolir, mardi, dont on a beaucoup parlé ici sur l'antenne, et puis Lucas et Simon, les réalisateurs, seront là, et on espère aussi des habitants, peut-être ceux qui étaient intervenus à ce micro aussi les derniers mois. Ensuite, on aura un film sur un quartier qui est un quartier autogéré, où les habitants sont un peu organisés ensemble à Dijon, qui s'appelle le quartier des Lentillères. et donc un film qui vient présenter un peu cette lutte là au long cours, hein, je crois que ça fait presque 10 ans maintenant qu'ils occupent ce quartier et qu'ils s'organisent entre eux contre la construction d'un gros projet municipal. Ensuite, donc la PU, elle a participé là pendant ces quelques semaines à la confection d'un journal, le journal La Brique, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un journal de critique sociale, c'est le poil à gratter de la métropole, qui essaye d'aller mettre son nez un peu là où on l'attend pas trop, dans les arcanes du pouvoir, tout ça. Et donc on a fait un numéro sur les questions des politiques urbaines et des questions des mobilisations d'habitants. Et donc le jeudi, on présentera ce numéro-là. Et donc ça sera au Alto Poste, qui est un café qui est sur la place de Fives. Et ensuite vendredi, se met en place voilà une grosse discussion à partir de 18h sur les expulsions. Et sur ce que ça fait à une famille, sur ce que ça fait à une famille de d'être partie là dans une procédure d'expulsion, de se faire expulser avec la police, c'est-à-dire de voir tout le mobilier sorti, mis dans des camions et tout ça, qui sont des choses, des traumatismes qui restent. Mais voilà, qui restent toute une vie. Hein, je veux dire, quand on est gamin, qu'on a 15 ans, on voit un truc comme ça, on l'oublie jamais. Hein, je pense. Et donc. Donc réfléchir un peu à voilà cette pratique là qui est quand même vraiment très très dure et à comment on peut faire pour essayer de s'organiser au mieux, parce que nous généralement on vient la PUFIV, on essaye de se rendre sur le moment donné quand il y a les procédures qui les expulsions qui sont mises en place, mais de toute façon on peut rien faire à part être là à côté de la famille en lui disant voilà on va s'organiser, on va trouver l'hôtel pendant ces quelques jours, les meubles vont être mis là-bas, on ira les chercher après, essayer de voir voilà qu'est-ce qui peut être mis en place. On a fait des ateliers au sein de l'association et là on rendra compte d'une petite brochure qu'on a fait et des outils qui peuvent être mis en place pour contrer les expulsions ou en tout cas essayer de faire que ça soit le moins traumatisant possible pour les habitants.
Mais comment vous êtes organisé pour justement arriver à faire ce type d'opération?
Bah alors généralement nous c'est avec les familles qu'on a accompagnées, dont on sait que ben là on a tout mis en place en fait. Nous on a mis en place tout ce qu'on pouvait faire pour essayer d'éviter l'expulsion, mais on sait que à partir du 31 mars là par exemple, bon bah ça y est, ça reprend en fait. Et donc s'il y a une mauvaise volonté du côté d'une administration et qu'elle dit on en a rien à faire, on sait qu'il y a ça et ça qui est en cours mais ça suspend pas la procédure et nous on met en application la procédure, bon bah on se retrouve avec un coup de téléphone qui arrive à l'association, allô, c'est monsieur machin, c'est madame machin, il y a la police qui est là, il y a le serrurier qui est là, il rentre à la maison et il y a un gros camion de déménagement devant la maison. Donc nous, on essaye de se rendre présent, on appelle, on fait un peu une chaîne téléphonique en appelant tous les membres de l'association, en leur disant, voilà, on se donne rendez-vous tout le monde là-bas, comme ça la famille, elle a le maximum de personnes autour d'elle, 5, 6 personnes, 7 personnes si on peut être là. Donc on peut rien empêcher, c'est-à-dire que les déménageurs sont à l'intérieur généralement, sont déjà à l'intérieur en train de vider les meubles. L'huissier, le serrurier sont là, et donc on n'empêche rien du tout. Par contre, on dit voilà, venez à l'association, tout le monde vient à l'association, on prend un café, on se pose, on réfléchit ce qu'on va faire, on va vous trouver des places dans un hôtel pour les 3-4 prochains jours parce que c'est pour l'urgence, et puis on va tout mettre en place pour trouver quelque chose de plus rapidement possible. Donc généralement c'est ce qu'on fait, mais là on pallie l'urgence quoi, hein. On est vraiment là, on n'a pas de solution miracle à apporter, mais au moins on fait.
Dans ces moments-là, est-ce que les bailleurs sociaux sont conciliants?
Les bailleurs sociaux sont pas présents en fait. Eux, ils ont mis en place la procédure, mais après la procédure, ils la donnent à la préfecture. Et la préfecture décide de ça. Mais les propriétaires sont jamais présents sur place. Il y a un huissier qui est là pour le compte du propriétaire, mais c'est l'huissier qui a été mandaté pour le propriétaire. Il y a la police qui est là, il y a le serrurier, il y a les déménageurs. Voilà, il y a quatre corps de métier qui sont présents, mais le propriétaire n'est jamais là en personne. Mais de toute façon, le propriétaire n'est jamais là non plus à l'audience, au jugement qui va prononcer l'expulsion. Le propriétaire n'est pas là. Le propriétaire, il dit juste « moi je veux de l'argent ». Et il va voir un huissier et lui dit toi je te mandate pour aller chercher mon argent. Donc voilà les propriétaires, et nous des fois on sait que on arrive à retrouver le propriétaire et on lui passe un coup de téléphone, et c'est généralement aussi des propriétaires qui veulent pas trop être embêtés par ces choses-là. Ils donnent à gérer à une agence, ils donnent à gérer à un huissier, ils sous-traitent cette question-là. Et donc quand on vient téléphoner des fois chez des propriétaires en leur disant vous êtes en train d'expulser quelqu'un, tout de suite, on peut arriver chez une petite famille à Bondu ou à Marc-en-Barœul qui n'aime pas du tout qu'on lui rappelle que oui, elle a un logement, qu'elle le met en location et que là, elle a mis en place une procédure d'expulsion et qu'il y a des gens qui vont se retrouver dehors. Donc des fois, effectivement, c'est un peu, ça fait juste rappeler que effectivement, ça existe quoi. Donc voilà, il y a tout ça et donc le samedi, il y aura soirée de soutien à la PUFIV parce que nous, l'association, ben, elle est en grosse difficulté financière en ce moment là, c'est très compliqué. On croise les doigts pour l'année 2018, mais voilà, on sait toujours pas à quelle sauce on va être mangé. Donc soirée de soutien le samedi et le dimanche, pour finir en apothéose, on organise une balade urbaine à partir de 11h. Au métro Saint-Maurice-Palvoisin. Donc on va faire un petit tour dans la ville, présenter un peu l'histoire et les luttes qui ont lieu aujourd'hui, en ce moment. Et on reviendra dans un dernier temps avec tous les mouvements de contestation des politiques de rénovation urbaine dans l'agglomération. Et donc on aura des habitants du quartier du Pil, bien sûr, qui sont à la pointe sur cette question de lutte, mais aussi des habitants du quartier de la Liondrie à M qui se sont organisés aussi et qui sont et qui veulent avoir leur mot à dire dans la rénovation de leur quartier, les habitants de l'île sud qui sont aussi concernés par un programme de requalification du quartier autour de l'Illénium, ce grand centre commercial qui va être construit en face du commissariat à l'île sud, et de l'île aux pépinières qui est un petit secteur à côté de Ralille et qui depuis 9 ans maintenant se bat aussi pour que les gens puissent garder leur maison ou en tout cas s'en sortir le mieux possible. Donc ça sera dimanche. Tout le programme est disponible sur le site de l'association apufiv.org, www.apufiv.org, et on met en route une campagne de communication incroyable à partir de la semaine prochaine.
Qui commence aujourd'hui, tu veux dire.
Qui commence aujourd'hui. Là, on vient de commencer.
Et nous, on est prêts à faire des jingles pour annoncer tous les événements.
Hein. Vous
nous envoyez des textes, nous on fait les jingles et on diffuse.
Ah bah avec plaisir, ouais. Avec plaisir.
Et d'ailleurs, ça commence le lundi avec une grosse cantine.
Voilà,
lundi midi, il y a une grosse cantine. Et
comme tous les lundis midi à l'association, on organise une cantine populaire qui est à prix libre et donc qui accueille des populations du quartier. Et donc là, le 26, le premier jour, le 26 mars, on aura une cantine populaire incroyable. On atteindra peut-être notre 500e couvert à l'association, donc à ne surtout pas manquer.
D'accord, ben c'est un voilà. Joli programme.
Et puis, de toute façon, on aura, l'occasion d'en reparler, je pense, sur Pastel.
Mais comme je vous dis, nous, on est prêts à communiquer sur l'événement. Il suffit simplement de nous envoyer les textes et on fait tourner, on diffuse.
Et on compte fort sur les Roubaisiens pour venir à FIV et faire la jonction Lille-Roubaix, quoi.
Non, mais je pense que le message est passé.
On a fait une belle émission, hein, quand même. Hein.
Merci à vous.
Bah, merci à toi, Christian.
Merci à toi. Ouais.
Et passez une très bonne semaine. Merci. À toi, Farouk.
Une bonne conscience. Nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents. Les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île FIV et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé, passe ses nuits dans les caves, avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, l'opinard aux bourgeois, il se recrée l'Indochine, dans sa petite vie de peine cul, sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus, il est tellement givré, que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter, c'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la monde du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cap dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le chia, il en a chié 20 ans,
pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. De toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême, mon HLM et l'amour du huitième. Le HLM, au deuxième, dans mon HLM, y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est instite, y'en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé, c'est vous dire s'ils sont cool. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième. Le HLM, au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club. Comme toutes les décolorées, elle a sa mini couvert, elle allume tout le quartier quand elle sort son coquère. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express. Et vous dire si elle lit, putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM, au quatrième, dans mon HLM, y'a celui que les voisins appellent le communiste, même ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste, j'ai jamais bien pigé la différence profonde. Pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué, c'est pour dire si j'ai raison. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loubard et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre ces braves gens, je fais un saut au huitième pour construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant, c'est vous dire si on rêve. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM.